Bonjour à tous, déjà pour commencer. Je vais vous relire le texte. C'est une histoire qui, en tant que chrétien, alors en plus, plus on avance dans la foi, je pense, plus on l'entend. Effectivement, donc là, ce dimanche, vous aurez deux fois le texte des rameaux, mais pas raconté par la même personne, puisque celui-là, on va le lire dans l'évangile de Marc. Donc Marc 11, les versets 1 à 11. Et vous pourrez peut-être constater aussi des différences. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est les trucs qui se passent à l'écran, mais on vous ferait avec pour ce matin. Voilà. Alors, je vais lire le texte, et puis après, on va l'étudier quelques instants ensemble. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Les disciples partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là dirent « Holà, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ! Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David ! Notre Père, Hosanna, à Dieu au plus haut des cieux !» Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Jusque-là, notre passage de ce matin. Alors notre texte d'ouverture de ce matin, comme on l'a dit, c'est un texte bien connu, texte souvent, voire très souvent, voire tous les ans, utilisé lors du dimanche des rameaux. Jésus, après avoir passé 3 années à sillonner les territoires juifs et à côté, on pense notamment à la Samarie, retourne à Jérusalem pour ce qui sera sa dernière fois, avant sa mort quelques jours plus tard. Et avant d'entrer à Jérusalem, donc, il envoie ses disciples chercher une monture, comme c'était écrit dans les prophéties d'Ésaïe, et il entre à Jérusalem, acclamé comme le Messie tant attendu, qui apporte le royaume de David en Israël. Il passe sa journée à faire le tour de Jérusalem en étant acclamé par la foule. Ça, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je relise ce texte au détour de ma méditation quotidienne la semaine dernière. Et j'y avais jamais prêté attention. Je ne m'étais jamais arrêté dessus et pourtant, quand j'ai posé mes yeux sur ce texte la semaine dernière, il m'a troublé. Et ce qui m'a troublé, c'est ce verset. Une fois rentré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient noté, mais pour moi, on m'a toujours dit que les rameaux, c'était l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et finalement, il semblerait que ce ne soit pas que ça. Alors je me suis imaginé Jésus entrant dans le temple et observant tout ce qui s'y passe. Il y était déjà allé dans ce temple, ce n'était pas sa première fois. Jésus y va, et observe attentivement ce qui s'y passe. Lui, le Fils de Dieu, vient dans le lieu saint par excellence pour voir de près comment le peuple que Dieu s'est choisi l'honore, l'adore et met en pratique ses commandements. Jésus passe son après-midi dans le temple à observer. Alors, dans l'enceinte du temple, il y a beaucoup de choses à observer. Ce n'est pas un temple à la taille de notre nouvelle église, ni un temple à la taille de la porte ouverte, un peu au niveau des repères qu'on pourrait avoir. En tout cas, le temple, dans son entièreté, parvis compris. Le bâtiment lui-même, effectivement, n'est pas très énorme, mais son esplanade, donc tout à l'intérieur des remparts, ça faisait environ la taille de 15 terrains de foot. Puisque le foot, ça parle à peu près à tout le monde. Et autant dire que, sur tout cet espace, Jésus avait de quoi se balader pour observer. Ici, donc, il y avait l'entrée, et puis après, effectivement, il y avait l'esplanade qui était disponible à tout le monde, et puis après celle que aux Juifs, et ensuite on entrait dans le temple, dans la partie finalement à laquelle peu de monde avait accès. Mais dans ce temple, effectivement, il y avait beaucoup de choses à observer. Il y avait des marchands, des changeurs d'argent, puisque dans le temple, une seule monnaie était utilisée, et donc du coup, tous ceux qui venaient d'autres pays, de l'extérieur même, devaient changer leur argent. On peut y ajouter aussi l'activité des tailleurs de pierre, des menuisiers, des ouvriers spécialisés dans le travail de l'or, de l'argent et du bronze, qui finissent peut-être quelques recoins de l'édifice et s'occupent de son entretien. Le fonctionnement du temple fait aussi certainement vivre quelques vendeurs en plus, mais Jésus ne voit pas que ça. Il voit aussi les fidèles, venus de tout le bassin méditerranéen et au-delà, puisque la Pâque juive approche, et que du coup, les Juifs de la diaspora, donc, qui étaient disséminés au travers le monde de l'époque, reviennent pour ce moment. Peut-être qu'il voit parmi eux certains parents qui crient sur leurs enfants. Peut-être qu'il voit certains mendiants qui demandent une pièce. Peut-être qu'il voit des malades confinés dans un coin, des rabbins qui enseignent, des fidèles qui prient et qui louent Dieu sincèrement, des gens qui se donnent des nouvelles, des personnes qui donnent, des personnes qui donnent, oui, comme dans l'épisode que Marc relatera un peu plus loin. En bref, c'est un peu un gros mélange des genres. La Bible ne nous dit pas ce que Jésus a vu ce jour-là, ni ce à quoi il a prêté attention. Elle nous dit juste qu'il observa attentivement tout ce qui s'y passait. Jésus fait des constats, des observations, note des attitudes, observe chaque personne, mais aussi l'attitude peut-être de la foule dans sa globalité. Et dans la suite de l'évangile, riche d'histoires qui en découlent, ça peut nous donner quelques indications sur ce qu'il a vu. C'est un peu finalement comme si Jésus était entré dans le temple, avait observé, et puis dans les chapitres qui suivent ce texte, faisait part de ses observations. Dans la suite du texte, on peut voir Jésus adopter deux attitudes, grossièrement par rapport à ce qu'il a observé. La première, il condamne, il met en garde et il se met en colère. Et de l'autre côté, il encourage, il enseigne et il rassure. C'est un peu comme ça qu'on éduque finalement, hein ? On s'oppose à ce qui n'est pas convenable et on renforce ce qu'il est. Et parmi les textes qui, chez Marc, se trouvent entre l'entrée de Jésus à Jérusalem et le récit de la Pâque, il y a plusieurs épisodes bien connus. La malédiction du figuier, Jésus qui renverse les tables, la parabole du fils du propriétaire ou des vignerons qui se vengent, rendre à César ce qui est à César, la veuve et le riche qui donne. Et tous finalement peuvent se lire comme étant la suite de Jésus qui observe ce jour-là, ce jour des rameaux. Après avoir observé ce qui se passait au temple et durant une partie de la journée, Jésus rentre le soir à Béthanie, c'est écrit dans notre texte, au verset 11, la deuxième partie. Comme il se faisait tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Donc Jésus rentre le soir dans Béthanie, donc il y a une petite bourgade à la périphérie de Jérusalem, un peu comme s'il y avait des villes de Jérusalem agglo. Et le lendemain, il se lève, il a faim et il se dirige vers un figuier qui ne porte pas de fruits. Ce qui est plutôt normal puisque ce n'était pas la saison, le texte nous le dit. Pourtant Jésus le maudit parce qu'il ne porte pas de fruits, parce qu'il est stérile. Pourquoi avoir fait cela? En mettant les deux textes l'un à côté de l'autre, on voit que Jésus a observé et peut-être que le lendemain, il rumine encore ce qu'il a vu la veille au temple. Peut-être qu'il a observé que beaucoup d'Israélites, enfants de Dieu, ne portaient pas de fruits. Alors que pour eux, il n'y a pas vraiment de saison. Le fait qu'ils maudissent ce figuier est peut-être juste le résultat de sa tristesse. Ils pourraient se dire, ils se disent juifs, mais je n'ai rien vu en eux qui honore mon père. Ce sont des imposteurs. Bref, c'est un épisode assez court, mais qui à mon avis peut se comprendre pleinement avec notre verset clé. Jésus observe, et puis peut-être que le lendemain, il reste encore des émotions qui sont fortes suite à ce qu'il a observé. Le texte nous dit ensuite que Jésus continue sa route avec ses disciples et se rend à nouveau à Jérusalem. Il retourne au temple. Toute la nuit, il a réfléchi, pensé, pleuré peut-être, en se remémorant l'attitude de certains dans la maison même de son père. Il retourne au temple et se met à chasser les marchands qui s'y étaient installés. Mais pas que. Les changeurs d'argent, les marchands d'animaux à destination de sacrifice, des personnes qui ne pensent Peut-être qu'à faire du chiffre, des bénéfices personnels, dans un lieu dans lequel les pensées doivent être tournées vers Dieu. D'autant qu'ils font du chiffre en profitant de certaines règles religieuses. Ils font de la marge sur des animaux peut-être à offrir en sacrifice, peut-être qu'ils appliquent des taux de change de manière abusive. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des ventes caritatives qui étaient pratiquées, mais des ventes pour vendre, pour faire de l'argent. Et dans le temple, ça pose problème. Les personnes semblaient plus tournées vers leurs propres besoins physiques que sur ce à quoi devait servir un temple. Prier et louer Dieu. Entrer en relation avec lui. Venir humblement, la tête basse, offrir un sacrifice pour rétablir la relation. Ou alors venir tête levée pour offrir un sacrifice de reconnaissance et de joie à leur Dieu. Peut-être aussi qu'à ce moment, Jésus sait qu'il va bientôt être livré en sacrifice pour le péché de beaucoup. Et certainement peut-être qu'il renverse les tables parce que bientôt ça ne servira plus à rien. Peut-être qu'il pense déjà qu'il aura accompli l'ultime sacrifice. Quoi qu'il en soit, Jésus avait observé attentivement la veille. Et il n'a pas pu supporter un jour de plus de voir ses marchands dans la maison de son père. Si on continue notre texte, après avoir tout balayé sur les tables, Jésus enseigne le peuple, dénonce les pratiques et se montre plus virulent que jamais. Bien que Jésus, qui est Jésus et qui par conséquent connaît toutes choses, il n'avait pas forcément besoin d'observer pour dire ces choses-là, mais le fait que ces passages dans notre Bible se suivent et donnent une dimension, ça peut donner une dimension supplémentaire à ces paroles. Dans le temple, lieu principal et central du peuple, le peuple que son Père, Dieu, s'est choisi, Jésus a constaté des choses qui lui ont été insupportables. Ce jour-là, Jésus a renversé des tables qui appartenaient à des marchands, mais on peut aussi facilement penser que ça a causé du tort à d'autres personnes que les marchands. Certainement que les marchands qui avaient le droit de marchander au temple reversaient un pourcentage aux prêtres ou au temple. Ils devaient sûrement faire partie de l'économie interne. Et ce jour-là, c'est aussi les dirigeants, les prêtres, les grands cadres religieux qui ont été remis en cause dans leur légitimité, leur système. La Bible nous dit, en Marc 11, verset 8, que les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et cherchèrent un moyen de le faire mourir. À partir de ce moment-là. Le lendemain, d'ailleurs, après être repassé encore une fois devant le figuier, qui n'était plus que l'ombre de lui-même, Jésus retourne encore dans ce même temple. Et il se fait aborder par les maîtres de la loi. On imagine peut-être pourquoi. En tout cas, le texte nous dit qu'il l'aborde à plusieurs. Il nous dit qu'il y avait les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les responsables du peuple. Donc, ils étaient plutôt assez nombreux. Et ils lui tombent un peu dessus. Ils lui disent « De quel droit agis-tu ainsi ?» Alors, pour ma part, j'ai l'impression que parfois, on entend l'histoire de manière très polie, très lissée. Mais, à mon avis, ce n'était pas le cas. Les têtes du système économique, du temple, accompagnées de leurs juristes religieux et des responsables politiques, qui devaient aussi profiter de la manne que constituaient les revenus générés par les ventes au temple, tout le monde vient ensemble contester Jésus. Et, à mon avis, ce n'était pas une petite question paisible entre deux choses. Peut-être qu'ils sont venus un peu en bande, qu'ils l'ont poussé, qu'ils l'ont... Qu'est-ce que tu fais? De quel droit tu as joué ainsi? Peut-être qu'ils viennent lui mettre une pression aussi, à plusieurs, afin qu'ils plient. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils feront. Jésus est entré avec eux en confrontation directe, pointant du doigt ce qui n'allait pas. Et ils le savent. À la lumière des textes, on voit qu'ils s'y opposent fermement, mais en même temps, ils sont fascinés et perplexes. Imaginez, s'ils n'accordaient aucun crédit à ce que disait Jésus, ils le laisseraient faire ses discours. Même s'ils parlaient bien, si ce qu'ils disaient n'était pas fondé, les chefs des prêtres et autres religieux n'auraient pas besoin de beaucoup d'efforts pour apporter les preuves que ce que Jésus dit est faux. Et même si Jésus accomplissait beaucoup de miracles, Ce n'est pas uniquement par cela qu'il s'est imposé au peuple. La Bible, et notamment le Nouveau Testament, nous parle de plein d'autres personnes qui pratiquaient la magie, qui soignaient des gens, qui faisaient des choses extraordinaires. Et pourtant, le peuple ne voyait pas en eux le Messie. Les chefs des prêtres prêtent donc du crédit à ce que Jésus dit, et ça les dérange. Car s'ils reconnaissent que ce que Jésus dit est vrai, alors ils ne peuvent plus continuer à agir comme ils l'ont fait et maintenir le système en place. Alors, ils vont essayer de chercher en Jésus une faille. Le reste des textes nous le montre. Jésus voit leurs failles et les dénonce haut et fort. Ils veulent pouvoir répliquer, prouver qu'ils ont raison. On voit dans la suite de l'évangile qu'ils redoublent d'efforts. Après l'intimidation, Jésus en rajoute une couche et dénonce au moyen d'une parabole très parlante leur traîtrise aux yeux de Dieu. Il révèle leur cœur mauvais. Alors ensuite, il lui envoie une délégation de pharisiens, de membres politiques, pour le coincer sur un sujet social et politique, l'impôt. Ensuite, ce sont les sadducéens, une autre branche, qui viennent le questionner sur une chose très pointue, la résurrection des morts. Et on sent que le combat est rude et que chaque jour passé à Jérusalem est un défi pour Jésus, l'occasion de dénoncer, quitte à se mettre le pouvoir religieux à Dieu, à dos. Jésus se rendit au temple et il observa attentivement ce qui s'y passait. D'ailleurs, dans ces textes, c'est plutôt les responsables du peuple qui s'opposent à Jésus et à qui Jésus s'oppose. Alors, on ne va pas faire de généralité, puisque tous les responsables ne s'opposaient pas non plus à Jésus, comme en témoigne le passage en Marc 12, les versets 28 à 34, où un spécialiste de la loi vient lui poser une question sur le plus grand commandement et a une discussion tout à fait classique, normale, paisible et sincère, surtout avec Jésus. Comme ça se passe dans le temple, le peuple est témoin de certaines scènes. Mais à ce moment-là, le peuple ne s'oppose pas à Jésus. Au contraire, il est parfois raconté que le peuple écoute Jésus avec un grand plaisir. Et ça va tout à fait dans la veine de ce qu'enseigne la Bible. Plus nous occupons une place importante à son service, plus Dieu nous demandera des comptes et s'opposera à certains discours qui sortiraient d'une vérité théologique. Alors, il me paraît important en tout cas de rappeler que nous sommes toujours l'enseignant de quelqu'un et que du coup nous avons tous une responsabilité par rapport à ce que nous disons aux autres. Alors sachons écouter Jésus et tenir compte de ses mises en garde. Faisons le maximum finalement pour être trouvés dignes à chaque instant. La deuxième, Jésus encourage, enseigne et rassure. Jésus, en plus d'observer le fonctionnement du temple, a aussi observé les fidèles, les croyants de l'époque, hommes, femmes et enfants, qui se rendaient au temple pour mettre en pratique leur foi. Et le ministère de Jésus, après ce moment d'observation, va prendre une nouvelle dimension. Il va tirer profit de chaque minute qui lui reste à vivre pour enseigner, édifier et libérer les hommes du carcan religieux. En repassant devant le figuier, Jésus apprend aux disciples comment prier, comment avoir la foi, que la religion n'est pas du tout une question d'habitude ou de rituel, mais une relation personnelle avec le Père. Ses disciples lui disent « Regarde, le figuier est tout sec. Tu as dit un truc et ça s'est produit, waouh !» Et Jésus répond juste « Ayez foi en Dieu. » Il leur enseigne à prier, à croire par la foi, que ce qu'ils disent va se réaliser, et ça se réalisera. Il leur apprend aussi à prier, à pardonner dans la prière, afin que Dieu, le Père, pardonne aussi. En bref, à être exemplaire. Vivre selon sa foi de manière personnelle, intime, en relation avec Dieu, et en honorant Dieu, pas seulement au temple, pas seulement à l'église, mais dans tous les aspects de notre vie. Lorsque Jésus est pris à partie, c'est souvent devant la foule, et les joutes verbales qu'il s'échange entre eux sont aussi l'occasion pour lui d'enseigner le peuple qui est présent autour. Jésus les fait se poser des questions, aller plus loin que les spécialistes de la loi. Par exemple, en Marc 12, et versets 38 à 40, « Gardez-vous des spécialistes. » Il les aide aussi, il les encourage à développer un regard critique, les met en garde et encourage chacun à étudier les Écritures, et donc pour nous aujourd'hui la Bible, de manière individuelle, à ne pas dépendre uniquement d'un enseignement dispensé par des personnes qui ont l'autorité. Encore une fois, Marc 12, versets 38 à 40. Peut-être aussi les enseigne-t-il à avoir un enseignement direct, basé sur les écritures de l'époque. D'où l'intérêt pour nous aujourd'hui d'avoir chacun le texte sous les yeux, mais aussi entre nos mains. Jésus enseigne et encourage les personnes à réfléchir et à agir par elles-mêmes. De ne pas faire les choses parce que d'autres nous regardent, comme ça peut être le cas parfois dans une église même, ou dans la société, mais de les faire avec le cœur et d'écouter avant tout la voix de notre Dieu. Jésus continue aussi à les enseigner par rapport à la suite, par rapport aux signes des derniers temps et plein d'autres choses. Tout cela parce qu'il a observé attentivement ce jour-là. Jésus s'est aussi écouté, parler avec bienveillance et douceur à ceux qui sont prêts à l'écouter. Il sait aussi reconnaître les personnes sincères, comme cette veuve prise en exemple, parce qu'elle donne 2 centimes, et parce qu'elle a une foi active qui se voit, non parce qu'elle fait des grands discours, mais qui se voit dans des petits actes de sa vie quotidienne. Jésus, le jour des rameaux, n'est pas que entré dans Jérusalem, glorieux, festif. Il a observé attentivement ce jour-là. Il a observé le fonctionnement de ce qu'on appelle la religion. Nous, aujourd'hui, et Philippe l'a bien rappelé, nous nous appelons catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, que sais-je encore. Qu'importe. Jésus observe notre rapport à la religion, ou mieux dit, notre rapport à lui-même. En tant qu'église locale, mais aussi que croyant, et n'importe quel croyant, ayant beaucoup d'expérience, ou au contraire, ayant un statut dans l'église ou pas, qu'est-ce que Jésus voit ? Est-ce que nous, Église de la Bonne Nouvelle, avons quelque chose à apprendre encore de ces textes ? Bien sûr. Est-ce que de beaux bâtiments suffiront à faire venir plus de monde ? Peut-être. Est-ce que de beaux discours feront subsister l'Église ? Peut-être. Mais pourquoi pas ? Après tout, il y a des milieux chrétiens, dits chrétiens en tout cas, qui sont à des lieux de ce que la Bible enseigne. Des prêtres ou des pasteurs qui tordent la vérité pour arriver à leur fin. Des gourous qui se servent des textes de la même Bible pour leur propre culte. Tout cela arrive et Jésus l'a enseigné entre son entrée à Jérusalem et sa mort à la croix. Ça faisait en quelque sorte partie de ce qu'il avait à dire avant de mourir. Alors pasteurs et enseignants et chrétiens qui témoignaient autour de vous, restez fermement attachés au texte biblique, à la parole que vous avez reçu ou que vous avez en main. Sœurs et frères, restez fermement attachés à cette parole. Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. L'Apocalypse de Jean nous révèle des lettres adressées par Jésus à cette église. Jésus continue d'observer, aujourd'hui dans chaque église, dans chaque cœur. À votre avis, quelles lettres recevrions-nous s'il nous en adressait une aujourd'hui ? Tout ce que nous avons besoin se trouve ici, dans sa parole. Ce sont des lettres qu'il nous a écrites et qui sont restées à travers les âges. Sa parole révélée, retranscrite par des hommes divinement inspirés, nous le croyons. Les rameaux marquent l'entrée de Jésus dans Jérusalem comme Messie, comme roi, comme sauveur, et il l'est. Et nous nous en souviendrons spécialement le week-end prochain, lors de la Pâque. Mais les rameaux, c'est aussi, et c'est vraiment ce avec quoi vous pouvez repartir aussi, la deuxième partie de la journée. Ce même Jésus qui se rend au temple et observe attentivement ce qui s'y passe. Alors cette semaine, je vous ai mis beaucoup de passages que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire et puis qui est écrit petit, etc. Ouvrez votre Bible cette semaine et lisez ce qui suit cet épisode des rameaux. Gardez à l'esprit que tout ce qui suit cet épisode vient peut-être, sûrement, je crois, de ces observations qu'a fait Jésus. La parole de Jésus est cinglante, dure, mais elle est en même temps bienveillante. Alors, laissons-nous éduquer par lui et préparons-nous par cela à entrer dans la Pâque de manière sincère et authentique. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ce jour des rameaux, tu n'es pas que venu en Seigneur et en Sauveur, acclamé par le peuple, même si effectivement tu l'es. Mais tu es un Sauveur et Seigneur qui entre aussi dans nos églises, dans nos cœurs, et tu y observes attentivement. Seigneur, donne-nous d'être trouvés justes devant toi. Effectivement, nous n'atteindrons jamais la perfection, et comme Philippe l'a dit, il n'y a pas forcément de « il faut ». Il faut peut-être juste avoir conscience que nous ne serons jamais parfaits et que le sacrifice, ton sacrifice, est nécessaire pour que nous soyons justes devant le Père. Merci Seigneur pour cette Bible, pour ces textes, et merci parce que tu observes que tu peux être dur, mais que tu es surtout un Dieu d'amour et un Dieu bienveillant. Je te prie pour cette Église particulièrement. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ce que ta parole dit, à ce que tu nous dis. Et Seigneur, continue de nous enseigner dimanche après dimanche. Merci pour ton amour. Amen.